Edgar Poe, Marginalia, deuxième sélection, note 22. L'on peut expliquer de deux façons plausibles l'étymologie de l'épithète pleureur appliquée au saule. On peut dire qu'elle provient de la disposition des longues branches pendantes de l'arbre qui suggère l'idée d'eau tombant goutte à goutte. On pourrait encore avancer que cette locution se base sur un fait d'histoire naturelle. Le saule exhale insensiblement une vapeur considérable qui se condense par un froid soudain et tombe quelquefois en fine averse. Or, il serait possible de déterminer très exactement la tendance d'un esprit, le degré auquel il possède le sens de la causalité, en observant laquelle de ces deux dérivations il l'adoptera. La première est sans aucun doute la vraie, et cela parce que les épithètes communes, vulgaires, proviennent de phénomènes communs, perçus de tous, sans grand égard pour l'exactitude de l'observation. Mais 9 philologues sur 10 s'attacheront à la seconde, sans autre motif que son originalité et la précision singulière avec laquelle le fait semble s'adapter à la locution. Voici donc une source subtile d'erreur que Lord Bacon a négligée. Ce sont les idolâtres de l'ingéniosité. Note 41. Ceux qui raisonnent a priori sur la politique sont, de toutes les gens possibles, les plus absurdes. Leur argumentation révèle cependant trop d'intelligence pour les croire dupes d'eux-mêmes. Et pourtant, cela même est possible, car il y a dans la vanité de la logique quelque chose qui rend stérile le cerveau humain. Le véritable logicien arrive à la longue à se logiciser lui-même. Et alors l'univers n'est plus pour lui qu'un certain nombre de mots. Aucune chose n'existe plus. Il pose sur une feuille de papier un assemblage de syllabes et s'imagine que c'est leur sens même qu'il vient de fixer. Je crois sérieusement qu'un logicien de profession a quelque idée de ce genre quand il discute par écrit. Il ne s'aperçoit pas que c'est là sa pensée. Il l'entretient néanmoins malgré lui. Et ses syllabes, une fois tracées, acquièrent à ses propres yeux un nouveau caractère. Tant qu'elles flottaient dans son esprit, on aurait pu lui faire admettre qu'elles n'étaient que les exposants véritables et variables des phases diverses de la pensée. Mais une fois qu'elles sont sur le papier, il ne veut plus en convenir. Dans une seule page de Stuart Mill, je trouve le mot « force » employé 4 fois, et à chacune, le sens a varié. En somme, le raisonnement a priori est pire qu'inutile, en dehors des sciences mathématiques, où les mots arrivent à avoir une valeur précise. Mais s'il est un sujet au monde auquel il est absolument et radicalement inapplicable, c'est la politique. Les arguments d'identité dont se sert M. Bentham pour soutenir ses propositions pourraient être employés avec un peu d'ingéniosité à les renverser. En faisant légèrement varier les mots « gigot » et « navet », il faudrait utiliser de variations assez graduelles pour qu'elles paraissent inaperçues. J'arriverais à démontrer qu'un navet a été, est et doit, en toute raison, être un gigot. Note 25. Quand je songe aux étranges apartés soliloques dans le théâtre des nations civilisées, je trouve presque respectables les expédients employés par les dramaturges chinois. Quand un général, sur la scène de Pékin ou de Canton, dit David, reçoit l'ordre de partir en guerre, il brandit son fouet, prend entre ses mains une bride, court 3 ou 4 fois autour d'une plateforme, au milieu d'un fracas terrible de gonds, de tambours, de trompettes, s'arrête, court, et apprend au public où il est arrivé. Un héros de tragédie en Europe serait quelquefois embarrassé pour en dire autant. La plupart semblent avoir une idée imparfaite de l'endroit où il se trouve. Dans la mort de César, par exemple, Voltaire fait courir çà et là la populace criant « Courons au Capitole !» Pauvres gens, ils y sont tout le temps. Dans son souci d'unité de lieu, l'auteur ne leur a jamais permis d'en sortir. Note 26. Nous pouvons accorder en toute sécurité que l'éloquence de Démosthène produisait un plus grand effet que celle d'aucun de nos orateurs, et ne point admettre cependant que l'éloquence grecque elle-même soit supérieure à la moderne. Les Grecs étaient une race impressionnable, sans lecture, n'ayant pas de livres imprimés. Les exhortations de vive voix avaient sur leur esprit l'ascendant gigantesque du nouveau. Ils éprouvaient profondément cette vive émotion que produit la première fable sur l'intelligence mal naissante de l'enfant, émotion qui s'use à mesure qu'il entend répéter les mêmes choses et recommence les mêmes fantaisies. Les suggestions, les démonstrations, les exhortations des anciens rhéteurs, comparées à celles des modernes, étaient absolument nouvelles, possédant ainsi un immense avantage qui provenait des circonstances et qui a été, chose étrange, omis dans les appréciations de l'éloquence aux deux époques. La plus belle philippique des Grecs eût été sifflée à la Chambre des Lords en Angleterre, tandis que l'improvisation de Sheridan ou de Brougham aurait emporté d'assaut tous les cœurs et toutes les intelligences d'Athènes. Note 27. Un Français, il est possible que ce soit Montaigne, a dit « On parle de pensée, mais pour moi je ne pense jamais, si ce n'est quand je m'assieds pour écrire. » C'est ce fait de ne penser que quand on s'assied pour écrire qui est cause du grand nombre d'ouvrages médiocres qui nous accablent. Mais peut-être la remarque que j'ai citée contient-elle davantage qu'il n'y paraît à première vue. Il est certain que l'action d'écrire tend par elle-même à logiciser la pensée. Toutes les fois que je suis mal satisfait d'une conception de mon cerveau, la trouvant trop vague, je recours aussitôt à la plume dans le but d'obtenir par son aide la forme, la suite, la précision qu'il me faut. Combien de fois n'entend-on pas dire que telle ou telle pensée sont inexprimables ? Je ne crois pas qu'aucune pensée proprement dite ne puisse être rendue par le langage. J'imagine plutôt que, quand on éprouve de la difficulté à la mettre en parole, c'est qu'il y a dans l'intelligence un manque ou de délibération ou de méthode. Pour moi, j'ai jamais eu une idée que je n'ai pu noter par des mots, et cela plus précisément que je ne l'avais conçue. Comme je l'ai dit, la pensée devient plus logique par l'effort nécessaire à son impression écrite. Il y a cependant une classe de fantaisie, d'une délicatesse exquise qui ne sont pas des pensées, et pour lesquelles jusqu'à présent je n'ai pu trouver de langage. J'emploie le mot « fantaisie » au hasard, simplement parce que je dois me servir d'une désignation quelconque. Mais le sens que l'on attache communément à ce terme ne s'applique pas, même avec une exactitude moyenne, aux ombres d'ombres que je veux dire. Elle me semble plus psychique qu'intellectuelle. Elle se lève dans l'âme. Hélas, que cela arrive rarement, aux époques d'absolue tranquillité, quand la santé du corps et de l'esprit est parfaite, et seulement à ce point du temps où les confins du monde éveillé se mêlent à ceux du rêve. Je n'ai conscience de ces fantaisies que quand je suis précisément tout près de dormir et que je sens que je suis ainsi. Je me suis convaincu que ces conditions n'existent que pendant un moment inappréciable, et cependant ces ombres d'ombres y sont innombrables. Or, on sait qu'à une pensée, il faut la durée. Ces fantaisies versent une extase voluptueuse, aussi lointaine des plus voluptueuses dans le monde de l'éveil ou de songe que le ciel dans la théologie des Norsemen était distant de leur enfer. Je contemple ces visions au moment où elles se lèvent, avec une terreur qui tempère en quelque mesure et tranquillise mon extase. Je les considère ainsi par la conviction qui semblent faire partie de l'extase même, qu'elles sont d'une nature dépassant la nature humaine, qu'elles sont un coup d'œil jeté dans le monde des esprits. Et j'arrive à cette conclusion, si l'on peut user de ce terme, par une intuition instantanée, en reconnaissant aux délices que j'éprouve un caractère d'absolue originalité. Je dis absolu, car dans ces fantaisies, dans ces impressions psychiques, il n'y a rien qui rappelle les impressions ordinaires. C'est comme si mes cinq sens étaient remplacés par cinq myriades de sens sublimes. Or, ma confiance dans le pouvoir des mots est si entière que quelquefois j'ai cru possible de donner un corps à ces fantaisies éphémères. Les essais que j'ai tentés dans ce but m'ont permis de faire naître, quand ma santé corporelle et mentale est bonne, l'état où je les aperçois. C'est-à-dire que je peux maintenant, excepté quand je suis malade, être certain que cet état surviendra, si je le désire, entre la veille et le sommeil. Tandis qu'autrefois, même dans les circonstances les plus favorables, cette certitude me manquait, je puis être sûr maintenant que, quand tout est propice, que j'entrerai en cet état extatique, et j'éprouve même le pouvoir de le contraindre à venir. Mais ces conditions propices n'en demeurent pas moins rares, sans quoi j'aurais déjà fait descendre le ciel sur la terre. Je suis arrivé ensuite à empêcher que le point dont j'ai parlé, le point de passage entre le sommeil et l'éveil, ne s'effaçât, à empêcher à la volonté, dis-je, que ce point ne fût effacé par le sommeil. Non pas que je puisse prolonger mon extase, faire qu'un point soit plus qu'un point. Mais je puis, quand mes visions me quittent, retourner en éveil, les fixer ainsi dans le domaine de la mémoire, transporter mes impressions ou, à plus proprement parler, leurs souvenirs, de telle sorte que, pendant un court espace de temps, il m'est donné de les passer en revue, de les soumettre à l'analyse. Étant arrivé jusque-là, je ne désespère pas tout à fait de mettre en parole une partie de mes visions suffisante pour produire la conception crépusculaire de leur nature chez un certain ordre d'intelligence. Il ne faut pas croire, quand je parle ainsi, que je suppose ces fantaisies, ces impressions psychiques bordées à soi-même, étrangères à toute l'humanité, car sur ce point, il est absolument impossible que je sache rien. Mais on peut te dire pour certains qu'un récit même imparfait de mes visions ferait sursauter l'intelligence universelle de l'humanité par la nouveauté des choses décrites et par les pensées qu'elles suggéreraient. En un mot, si je devais jamais traiter ce sujet, le monde serait forcé de reconnaître que finalement, j'ai fait une œuvre originale. Note 32. Les hommes de génie sont bien plus nombreux qu'on ne pense. En fait, pour apprécier complètement une œuvre de génie, il faut posséder tout celui qui a servi à la produire. Et pourtant, cet homme, qu'il apprécie peut-être absolument, incapable de la reproduire, d'en faire un semblable, une semblable, et cela simplement, faute de ce qu'on peut appeler l'habileté constructive, capacité tout à fait distincte de ce que nous entendons communément par génie. Cette habileté repose pour beaucoup sur la faculté d'analyse par laquelle l'artiste devient capable d'avoir une vue entière du mécanisme employé pour ce qu'il se propose, de le concevoir et de le régler comme il lui plaît. Mais cette habileté dépend aussi en grande partie de vertus strictement morales, telles que la patience, la faculté de se concentrer, de fixer l'attention persévéramment sur le même objet, l'empire de soi, le mépris de tout préjugé, et spécialement l'énergie, le labeur. Ce dernier élément est si indispensable, si vital, que l'on peut douter, à juste titre, que rien de ce que nous appelons œuvre de génie ait pu être accompli sans lui. Or, c'est précisément parce que le labeur et le génie sont à peu près incompatibles que les grandes œuvres sont rares, tandis que les hommes de génie, comme je l'ai dit, abondent. Les Romains, qui sont nos maîtres pour la sagacité de l'observation, quoique nos inférieurs pour l'interprétation des faits observés, semblent avoir eu si pleinement conscience de la connexion étroite entre la constructivité et l'œuvre de génie, qu'ils ont cru, par erreur, que c'était deux termes identiques. Un Romain entendait faire le plus grand éloge quand il disait d'un poème ou de quelque œuvre semblable qu'elle était écrite « industria mirabili » ou « incredibili industria ». Note 34. Après avoir lu tout ce qui a été écrit sur l'âme et sur Dieu, après avoir pensé là-dessus tout ce qui peut être pensé, l'homme qui peut dire qu'il réfléchit encore se trouva face à face avec cette conclusion que sur ces matières, l'aphorisme le plus profond est celui qui peut le moins être distingué du sentiment le plus superficiel. Note 39. La moitié du plaisir éprouvé dans un théâtre vient de la communauté de sentiments d'un quelconque des spectateurs avec le reste du public, de l'idée qu'il a que ce reste sent comme lui. L'excentrique qui, dernièrement, au théâtre du Parc, se trouva être le seul occupant des loges, du parterre et de la galerie, n'aurait éprouvé que peu de plaisir si on l'avait permis de rester. Ce fut un acte d'humanité de le mettre à la porte. La rage d'aujourd'hui, la rage absurde de donner des conférences, est fondée sur ce sentiment. Nous sommes induits à tolérer et même à applaudir, hélas, en leur 10e et 20e répétition, des essais que nous n'irions pas si l'on nous payait, tant est rebattu leur sujet et faible leur style, tant il est facile de recourir à la première encyclopédie venue et de mieux s'y instruire. C'est notre sympathie imaginaire pour la foule qui nous contraint à cette folie. Nous écoutons de même avec plus d'intérêt le récit d'une aventure quand d'autres personnes que nous assistent à la narration. Certains auteurs peu réfléchis ont remarqué ce fait et ont tenté de simuler à leur compte un cercle d'auditeurs pour profiter de cette sympathie. À première vue, l'idée semble bonne, mais dans la réalité, la sympathie existe véritablement. Elle est personnelle, palpable. Elle se communique par des gestes, des regards, de brefs commentaires. C'est une sympathie de personnes vivantes, toutes absorbées assurément à écouter, mais assises côte à côte. Et dans le cas de ces romanciers, au contraire, nous sommes seuls dans notre cabinet quand on nous demande de croire à la présence d'auditeurs fictifs, qui, loin d'être là en personne, cessent souvent de donner signe de vie pendant 200 ou 300 pages. C'est une sympathie à double dilution, l'ombre du nombre. Il n'est pas besoin de dire que cet artifice manque invariablement son effet. Note 60. Dites à un coquin 3 ou 4 fois par jour qu'il est la fleur de la probité, et vous en ferez tout au moins le modèle du bourgeois respectable. Mais d'autre part, accusez obstinément un honnête homme d'être une canaille, et vous lui aspirez l'ambition perverse de vous prouver que vous n'êtes pas tout à fait dans l'erreur. Note 64. S'il en était besoin, j'aurais peut-être peu de peine à défendre l'espèce de dogmatisme auquel je suis enclin en versification. Ce qu'est la poésie est une question que l'on peut résoudre, bien que Leif Hunt y ait ridiculement échoué, à la satisfaction partielle de quelques esprits analytiques. Il faut, pour cela, user de beaucoup de circonspection et convenir d'avance de la valeur exacte de certains mots importants. Mais dans l'état actuel de la métaphysique, cette solution ne saurait jamais plaire au plus grand nombre. En effet, notre problème ressortit de la métaphysique pure, et cette science se trouve actuellement dans un chaos inextricable, le sens des termes qu'elle est forcée d'employer ne pouvant être fixé. Cependant, cet obstacle n'est que partiel, car si un tiers de notre sujet peut être réputé dépendant de la métaphysique et être discuté au gré de chacun, les deux autres tiers appartiennent indubitablement aux mathématiques. Les questions, encore gravement débattues, du rythme du maître sont susceptibles d'être tranchées par démonstration. Leurs lois sont connexes aux lois de forme et de quantité, aux lois de relation. Sur ces derniers sujets, ennuyeux prétexte à controverse indéfiniment soulevée, le prosodiste aurait tort de dire de telle proposition qu'elle est probable, de telle autre qu'elle est possible. C'est comme si un mathématicien admettait que dans son humble opinion, ou sauf erreur, deux côtés quelconques d'un triangle sont plus grands que le troisième. Il faut cependant que je fasse une remarque à ce que j'avance là. Si l'on reproche si souvent aux théories de versification de ne lier que leurs auteurs, c'est qu'il n'existe réellement pas de prosodie raisonnée. Les prosodies classiques sont des recueils de lois obscures, contredites par des cas particuliers, plus incertains encore, dénués de tout principe et calqués de la façon la plus arbitraire sur la pratique des anciens, qui n'avaient d'autres règles que leur oreille et leurs doigts. Et c'était là des règles suffisantes, dira-t-on, puisque l'Iliade est harmonieuse et mélodieuse, puisqu'aucune œuvre moderne. Je le veux bien, mais nous n'écrivons pas en grec, et on n'a pas encore tenté de ce qui peut fournir à la prosodie l'invention moderne. Une analyse appuyée sur des lois de physique qu'ignorait le poète de Chios suggérerait une multitude de perfectionnements, même au meilleur passage de l'Iliade. Du fait supposé qu'Homer trouvait dans son oreille et ses doigts un ensemble de règles absolument suffisants, point que je viens de nier, il ne suit pas que les règles déduites par nous des effets homériques doivent l'emporter sur les principes immuables de mesure, de quantité, bref, sur les lois mathématiques de la musique. Ces lois, observées, sont les causes efficientes des beautés d'Homère, beauté dont les doigts et l'oreille du poète étaient les causes médiates. Note 70. Texte de Volney. Quand on réfléchit qu'il n'est pas possible de trouver aucune personne âgée qui soit prête à passer de nouveau par la vie qu'elle a déjà vécue, l'on se convainc que le mal prédomine dans le monde sur le bien. Cette proposition n'est pas claire. Sans le contexte, nous ne pourrons nous assurer si l'auteur veut dire simplement que toute personne âgée se figure trouver plus de bonheur qu'elle en a eu dans une existence différente de celle qui lui est échue et se refuse pour cette raison à revivre sa vie, mais non pas celle de quelque autre. Ou s'il entend que toute personne âgée ayant à choisir à sa dernière heure entre la mort et la faculté de revivre son ancienne vie, préférerait mourir. La première version est vraie, peut-être, mais la seconde, qui est la juste, est douteuse et ne suffit pas, même si on l'admet, à prouver que le mal dans la vie surpasse le bien. On nous demande d'accorder que toute vieille personne refuse de recommencer sa vie parce qu'elle sait que le mal y a surpassé le bien. L'erreur est dans le monde sait, dans la présomption que jamais l'on puisse posséder cette connaissance absolue à laquelle il fait obscurément allusion. C'est justement la connaissance apparente, mensongère, de ce qu'a été la vie déjà écoulée, qui rend incapables les vieillards de décider du bonheur ou du malheur de leur passé. Ils considèrent une vie hypothétique, secondaire, quand ils affirment de la vie véritable, originale, que le mal ou le bien y a prédominé. Dans leur estimation, ils ne rêvent que les événements et ne tiennent nul compte de cette espérance irrépressible qui éclairait tant tout de leur rose. La vie véritable de l'homme est heureuse parce qu'il s'attend toujours à ce qu'elle le soit bientôt. Mais quand nous considérons la vie qui a passé, nous en obtenons une image déformée. Nous nous représentons de froides certitudes au lieu de chaudes attentes, des douleurs qui s'étaient quadruplées si nous les avions prévues. Nous ne pouvons nous empêcher de penser ainsi, que nous tendions notre imagination comme il nous plaît. C'est une tâche difficile et presque impossible de penser comme si nous ignorions ce que nous savons, comme si ce qui est accompli ne l'était pas encore. Notre incapacité imaginative, notre répugnance qui en résulte à recommencer notre vie, nous autorise-t-elle d'aucune manière à conclure que dans l'existence réelle, proprement dite, le mal l'emporte sur le bien? Pour que la personne âgée de Volney fût un juge équitable et choisit en connaissance de cause, pour que ce jugement, ce choix, puisse nous permettre d'en déduire la comparaison exacte du bien et du mal dans l'existence, il nous faudrait un vieillard capable d'apprécier sûrement les espérances qui les conduisent à négliger, mais qui les prouverait assurément aussi forte qu'autrefois en repassant par son existence. Il faut aussi que ce vieillard écarte les craintes de son déclin, qui lui montre de près les mots surprenants, mots qui lui seraient cachés s'il recommençait à vivre. Quel mortel est jamais parvenu à remplir ces conditions? Quel mortel a jamais été capable d'un choix juste? Et comment, de décisions mal fondées, pouvons-nous tirer des conclusions propres à nous guider sûrement? Comment avec de l'erreur faire de la vérité? Note 72. On sait peu quels effets se tirent du bon emploi de la rime. D'habitude, le mot « rime » se dit simplement d'une similitude de son à la fin de deux vers. Il est curieux de voir pendant combien de temps on s'en est tenu à cette définition étroite. Ce qui plaît d'abord et surtout dans la rime vient du sens et de la sensation d'égalité qui sont la cause, comme on pourrait le démontrer, de tout le charme que procure la musique, spécialement dans ses modifications de rythme et de mesure. Quand nous regardons un cristal, nous sommes immédiatement frappés par l'égalité qui existe entre les côtés et les angles de l'un de ses faces. Mais en observant qu'une seconde face est exactement semblable à la première, notre plaisir paraît s'être élevé au carré. À une troisième face, il est porté au cube, et ainsi de suite. Si on mesurait le plaisir ressenti, je ne doute pas qu'on le trouvât augmenté mathématiquement dans la proportion que j'indique. Cela jusqu'à un certain point, après lequel il diminuerait, selon la même loi. En fin d'analyse, nous démêlons dans notre jouissance le sens de l'égalité, ou plutôt le plaisir que procure ce sens satisfait à l'homme. Et ce fut l'instinct, plutôt que la claire intelligence de ce charme, qui conduisit le poète à ajouter à la similitude, à l'égalité de deux sons, une seconde relation faite pour augmenter l'effet de la première, celle de placer les rimes à une distance fixe, c'est-à-dire à l'extrémité de vers de longueur égale. De cette façon, rime et fin de vers devinrent deux idées connexes, et le principe ayant été perdu de vue, conventionnel. On plaça parfois la rime à des intervalles irréguliers, mais ce fut simplement parce qu'avant qu'elle ne fût inventée, on connaissait les vers pindariques qui se succèdent inégaux d'étendue. Et c'est pour cette raison, dis-je, pour aucune autre plus profonde, On était arrivé à regarder la rime comme appartement de droit à la fin du vers. Nous déplorons qu'on soit resté là. Il est clair que l'on pouvait imaginer de nouvelles dispositions de la rime. Le sens d'égalité était seul mis à contribution. Ou, si cette égalité avait légèrement varié, cela n'avait été que par accident. La rime est toujours prévue ainsi d'avance. L'œil courant à la fin du vers, qu'il soit court ou long, il cherche la syllabe que l'oreille sait devoir retenir. La part de l'inattendu, de la nouveauté, de l'originalité, personne n'y songeait. Or, dit Lord Bacon, avec quelle justesse, il n'y a pas de beauté exquise sans quelque étrangeté dans les proportions. Ôtez cet élément étrange, inattendu, nouveau, original, appelez-le comme vous voudrez, et tout le charme idéal de la beauté disparaîtra du coup. Nous perdons l'inconnu, le vague, l'incompris, ce que nous avons le temps ni d'examiner ni de scruter, et nous en ressentons le manque. Nous perdons en un mot tout ce qui peut rendre la beauté terrestre semblable à la beauté céleste. La perfection pour la rime résiderait dans la combinaison de l'égal et de l'inattendu. Mais comme le mal ne peut exister sans le bien, de même aussi il faut que l'inattendu sorte de l'attendu. Nous ne voulons pas l'arbitraire. Il nous faut d'abord une série de rimes équidistantes, revenant à intervalles égaux, pour former la base, l'attendu, le prévu. Et c'est de là que naîtra l'inattendu, par l'introduction de rimes placées non au hasard, mais de façon à donner la plus grande somme d'imprévus possible. Il ne faudrait pas les insérer à des endroits tels que le vers entier fut un multiple du nombre de syllabes placées avant la rime. Quand j'écris, par exemple, « And the silken, sad, uncertain resting of each people curtain », je produis certainement plus d'effets, mais non beaucoup plus d'effets que si j'emploie les rimes ordinaires recourant à la fin du vers. Car le nombre de syllabes de mon octave-mètre est divisible par celui qui précède la rime introduite au milieu. Il reste par conséquent quelque chose de prévu. En fait, l'innovation dans mon vers ne s'adresse qu'à l'œil, car l'oreille coupe le vers en deux, ainsi « And the silken sail uncertain, rushing of first people's curtain ». Mais j'atteins tout l'effet de l'imprévu quand j'écris « filled me with fantasio, there was never fit before ».